France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Selon Michel Foucault, producteur de l'émission qui vient, il y avait en Raymond Roussel de la répugnance pour la confidence. Le langage, pour lui, n'était pas une manière de passer ou de faire passer, mais plutôt une réserve infinie, comme un corridor souterrain permettant d'aller subrepticement d'un point à un autre, d'une banalité à un trésor, du réel à l'impossible. La doublure, la vue, impression d'Afrique, locus solus, l'étoile au front, la poussière de soleil, nouvelles impressions d'Afrique, comment j'ai écrit certains de mes livres. Ces textes de Raymond Roussel composent le volume de la collection Bouquins chez Robert Laffont dans une édition établie et présentée par Patrick Beignet et Jean-Paul Goujon. Et certains extraits de ces œuvres de Raymond Roussel parsemaient l'émission de Michel Foucault le 21 novembre 1962 sur la chaîne Nationale.
Fait fuir le brouillard devant lui-même. André Breton, Paul Éluard.
RTF France 3 Nationale présente Photogramme. Aujourd'hui, Raymond Roussel, par Michel Foucault, avec l'auteur et le concours de Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, Nadine Allary, Michel Bouquet, Renaud Marie, Roger Blin, Rachel Salic, Pierre Leproux, René Farabet, Claude Martin, Simone Vanier, Dominique Jaïr. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Montage, Joseph Rémiot. Assistante, Ève Augustin-Henrault. Réalisation, Pierre Barbier.
Entre cet édifice et l'angle nord-ouest de l'esplanade s'alignaient plusieurs statues de grandeur naturelle. La première évoquait un homme atteint mortellement par une arme enfoncée dans son cœur. Instinctivement, les deux mains se portaient vers la blessure, pendant que les jambes fléchissaient sous le poids du corps rejeté en arrière et prêt à s'effondrer. La statue était noire, et semblait, au premier coup d'œil, faite d'un seul bloc. Mais le regard, peu à peu, découvrait une foule de rainures tracées en tous sens et formant généralement de nombreux groupes parallèles. L'œuvre, en réalité, se trouvait composée uniquement d'innombrables baleines de corps secs coupées et fléchies suivant les besoins du modelage. Des clous à tête plate, dont la pointe devait sans doute se recourber intérieurement, soudaient entre elles ces souples lamelles qui se juxtaposaient avec art, sans jamais laisser place au moindre interstice. La figure elle-même, avec tous ses détails d'expression douloureuse et angoissée, n'était faite que de tronçons bien ajustés, reproduisant fidèlement la forme du nez, des lèvres, des arcades sourcilières et du globe oculaire. Le manche de l'arme, plongé dans le cœur du mourant, donnait une impression de grande difficulté vaincue grâce à l'élégance de la poignée, dans laquelle on retrouvait les traces de deux ou trois baleines coupées en courts fragments, arrondis comme des anneaux. Le corps musculeux, les bras crispés, les jambes nerveuses et à demi ployées, tout semblait palpiter ou souffrir par suite du galbe saisissant et parfait donné aux invariables lamelles sombres. Les pieds de la statue reposaient sur un véhicule très simple, dont la plateforme basse et les quatre roues étaient fabriquées avec d'autres baleines noires ingénieusement combinées. Deux rails étroits, faits d'une substance crue, rougeâtre et gélatineuse, qui n'était autre que du mou de veau, s'alignaient sur une surface de bois noircie et donnaient par leur modelé, sinon par leur couleur, l'illusion exacte d'une portion de voie ferrée. C'est sur eux que s'adaptaient, sans les écraser, les quatre roues immobiles.
Voilà la seule page classique de Raymond Roussel, de cet homme qui, tout au long de sa vie, a cru qu'il était le plus grand écrivain qui ait jamais vu le jour depuis Shakespeare et Victor Hugo. Une seule exception pourtant dans son esprit, et c'était Jules Verne. Encore, la célébrité de cette page, faut-il en rendre le seul mérite au surréalisme. Dans cette statue en baleine de corset, décrite bien avant 1910, comment ne pas voir la description méticuleuse, exacte, profondément réaliste, d'une image qui aurait pu figurer aussi bien dans le chien andalou. Ces tiges noires et sculpturales, ce chemin de fer mou avec des rails tremblants taillés dans une chair grise et rose, ces viscères tièdes, écœurants, si proches de ceux qu'a vu parfois le Tintoret, tout cela apparaît de plein droit appartenir à l'espace merveilleux aménagé par le rêve des surréalistes. À cette marionnette où se composent la méticulosité et le sang, André Breton a rendu l'hommage nécessaire en y reconnaissant le ludion qui hante, anime, ne cesse de troubler notre mécanique. Mais peut-être le nom de Roussel, déposé dans l'anthologie de l'humour noir, y serait resté un peu captif s'il n'y avait eu la fidélité de Michel Léris, un des rares qui ait connu Roussel et qui, à plusieurs reprises, lui a prêté la splendeur de son langage. Et puis, l'œuvre de Robe Grillet fait surgir maintenant de l'ombre toute une part encore moins connue de Raymond Roussel, celle du langage neutre, de l'inépuisable description, des objets têtus et infinis, de tous ces mots blancs, souples, sans épaisseur, qui courent à la surface des choses, les montrant et les dérobant tout ensemble. Et puis encore, il y a le théâtre de Roussel, théâtre, sans action, sans personnage, théâtre où le langage se découpe selon une mécanique mystérieuse. Mais aurions-nous pour ce théâtre une oreille attentive si nous n'avions d'abord écouté Ionesco? Et peut-être y a-t-il encore d'autres trésors chez Roussel, d'autres littératures possibles qui sont encore en sommeil et qui se réveilleront un jour à l'appel de leurs semblables, mais pour elles, nous sommes encore aveugles et sourds. Avec Madame Charlotte Dufresne, Roussel, quand il avait plus de 40 ans, fréquentait le théâtre du Petit Monde. Mais comme il avait un peu honte, il emmenait une petite fille pour faire croire qu'il l'accompagnait, mais c'était le contraire. Roussel adorait les spectacles, les féeries, les illusions, les petites comédies, les papiers dorés, les fêtes de carton. Non pas à vrai dire ces réjouissances foraines, ces clowns tristes et asexués qui fascinaient à son époque Max Jacob ou Picasso, mais des fêtes plus concertées, plus horlogères, plus inquiétantes. Toutes, presque toutes les œuvres de Roussel sont des fêtes silencieuses comme des cauchemars ou des parcs, des fêtes naïves et obstinément meurtrières. Prenons donc l'œuvre de Roussel comme un de ces jardins étranges et piégés, tels qu'on en composait au XVIe et au XVIIe siècle, jardin où la nature s'imite elle-même, où elle est toute entrelacée d'artifices, miné d'épouvantes calmes, de figures inoffensives et terrifiantes, de trompe-l'œil et de trompe-l'ouïe, de choses vraies qui font semblant d'être de faux semblants, de paysages qui miment les décors, de statues mobiles, d'animaux pétrifiés.
après un entracte d'une minute, on vit paraître Filippo, présenté par Jen, son inséparable barnum. Une simple tête quinquagénaire, posée sur un large disque rouge et maintenue par une armature en fer qui l'empêchait de tomber, tel était Filippo. Une barbe courte et hirsute ajoutait à la laideur du visage, amusant et sympathique à force d'intelligente drôlerie. Jen, tenant à deux mains le disque uni, sorte de table ronde dépourvue de pieds, montrait au public cette tête sans corps, qui se mit à bavarder joyeusement avec la plus originale faconde. La mâchoire inférieure, très saillante, provoquait à chaque mot un jet de postillon qui, s'échappant en gerbe de la bouche, retombait en avant à une certaine distance. Ici, l'on ne pouvait admettre aucun des subterfuges employés pour le classique décapité parlant. Nul système de glace n'existait sous la table que Jen maniait au hasard sans précaution suspecte. Le barnum, d'ailleurs, marcha jusqu'au bord de l'estrade et tendit la plateforme ronde au premier spectateur désireux de la prendre. Skariowski s'avança de quelques pas et reçut Filippo, qui, dès lors, passant de main en main, fit avec chacun une brève conversation imprévue et spirituelle. Certains tenaient la table à bout de bras pour éviter le mieux possible les innombrables postillons lancés par la bouche du phénomène dont les étonnantes réparties suscitaient parmi nous de continuels éclats de rire. Après une tournée complète, Filippo revint à son point de départ et fut rendu à Jen, resté debout sur la scène. Aussitôt, le barnum poussa un ressort secret qui ouvrit, ainsi qu'une boîte prodigieusement plate, la table rouge, formée en réalité de deux parties reliées par une fine charnière. Le disque inférieur s'abaissa de profil en plan vertical pendant que, soutenu par Jen, la rondelle, qui tout à l'heure jouait le rôle de couvercle, supportait toujours horizontalement la figure barbue. En dessous pendait maintenant, recouvert du classique maillot couleur chair, un minuscule corps humain qui, grâce à une atrophie absolue, avait pu tenir jusqu'alors dans l'étroite cachette de la table creuse, épaisse au plus de 3 centimètres. Cette vision soudaine complétait la personne de Filippo, nain loquace qui, montrant une tête normalement développée, vivait en parfaite santé malgré l'exiguïté de son impressionnante anatomie. Continuant à parler en crachant, l'étonnant bavard agitait de tous côtés ses membres de marionnette, comme pour donner libre cours à sa gaieté pleine d'inlassable exubérance. Bientôt, prenant Filippo par la nuque, après avoir écarté l'armature de fer mobile sur plusieurs charnières à cran d'arrêt, le barnum, avec sa main gauche, abaissa le disque supérieur, dont l'ouverture livra facilement passage au corps impondérable habillé de rose. L'agile brimborion, dont la tête, plus grosse que celle de Jen, égalait en hauteur le restant de l'individu, mit soudain à profit l'indépendance récente de ses mouvements pour se gratter furieusement la barbe, sans interrompre son verbiage humide. Au moment où Jen l'emportait dans la coulisse, il se prit allègrement un pied dans chaque main et disparut en gigotant, pendant qu'un dernier lazzi envoyait au loin maintes gouttes de son abondante salive.
Aussitôt, le Breton Lelguac, vêtu du costume légendaire de sa province, s'avança en saluant avec son chapeau rond, tandis que le plancher de la scène résonnait sous les chocs de sa jambe de bois. Dans sa main gauche, il tenait un os évidé, nettement percé de trous, comme une flûte. Avec un fort accent de Bretagne, le nouveau venu, récitant un boniment tout fait, nous donna sur lui-même les détails suivants. À 18 ans, l'Elguac, exerçant le métier de pêcheur, longeait chaque jour avec sa petite barque les côtes voisines de Paimpol, sa ville natale. Possesseur d'un biniou,
Le jeune homme passait pour le meilleur joueur de la contrée. Chaque dimanche, on se réunissait sur la place publique pour l'entendre exécuter, avec un charme tout personnel, une foule d'airs bretons, formant dans sa mémoire une réserve inépuisable. Un jour, à la fête de Paimpol, en grimpant vers le sommet d'un mât de cocagne, l'Elgouac tomba de haut sur le sol et se fractura la cuisse. Honteux de sa maladresse, dont tout le village était témoin, il se releva et recommença son ascension, qu'il réussit à la force des poignets. Puis il rentra chez lui tant bien que mal, mettant toujours son point d'honneur à cacher ses souffrances. Quand, après une trop longue attente, il fit enfin mander un médecin, le mal, terriblement développé, avait amené la gangrène à sa suite. L'amputation fut jugée nécessaire. L'Elgouac, averti, envisagea la situation avec courage et, ne songeant qu'à en tirer le meilleur parti, pria simplement l'opérateur de lui garder son tibia, dont il comptait faire un usage mystérieux. On agit selon son désir, et certains jours, le pauvre amputé, orné d'une jambe de bois toute neuve, se rendit chez un luthier, auquel il remit, avec des instructions précises, un paquet soigneusement enveloppé. Un mois après, l'Elgouac reçut dans un écrin noir doublé de velours l'os de sa jambe, transformé en flûte, étrangement sonore. Le jeune Breton apprit vite le doigté nouveau et commença une carrière lucrative en jouant les airs de son pays dans les cafés-concerts et dans les cirques. La bizarrerie de l'instrument, dont la provenance était chaque fois expliquée, attirait la foule des curieux et faisait partout croître la recette. L'amputation remontait à plus de 20 ans déjà, et depuis lors, la résonance de la flûte s'était sans cesse améliorée, comme celle d'un violon qui se bonifie avec le temps. En terminant son récit, l'Elgouac porta son tibia jusqu'à ses lèvres et se mit à jouer une mélodie bretonne, remplie de lente mélancolie. Les sons, purs et veloutés, ne ressemblaient à rien de connu. Le timbre, à la fois chaud et cristallin, d'une limpidité inexprimable, convenait merveilleusement au charme particulier de l'air calme et chantant, dont les contours évocateurs transportaient la pensée en pleine armorique. Plusieurs refrains, joyeux ou patriotiques, amoureux ou dansants, suivirent cette première romance, gardant tous une grande unité d'où se dégageait une intense couleur locale. Après une douce complainte finale, l'Elgouac se retira d'un pas alerte en frappant de nouveau le plancher avec sa jambe de bois.
Comme point de direction, le maître avait choisi une sorte de diamant géant qui, se dressant à l'extrémité de l'esplanade, avait déjà maintes fois attiré de loin nos regards par son éclat prodigieux. Haut de 2 mètres et large de 3, le monstrueux joyau arrondi en forme d'ellipse jetait sous les rayons du plein soleil des feux presque insoutenables qui le paraient d'éclairs dirigés en tous sens. Fixement soutenu par un rocher artificiel très peu élevé, dans lequel s'encastrait sa base relativement minime, il était taillé à facettes comme une véritable pierre précieuse et semblait renfermer différents objets en mouvement. Peu à peu, en s'approchant de lui, on percevait une vague musique, merveilleuse comme effet, consistant en une série étrange de traits d'arpèges ou de gammes montant et descendant. En réalité, ainsi qu'on s'en rendait compte de tout près, le diamant n'était autre qu'un immense récipient rempli d'eau. Quelque élément exceptionnel entrait sans nul doute dans la composition de l'onde captive, car c'était d'elle, et non des parois de verre, que venait toute l'irradiation qu'on sentait présente en chaque point de son épaisseur. Les yeux appliqués contre l'une quelconque des facettes, on embrassait d'un seul regard circulaire tout l'intérieur du récipient. Au milieu, une jeune femme gracieuse et fine, revêtue d'un maillot couleur chair, se tenait debout sur le fond et, complètement immergée, prenait maintes poses pleines de charme esthétique en balançant doucement la tête. Un gai sourire aux lèvres, elle semblait respirer librement dans l'élément liquide l'enveloppant de toutes parts. Entièrement éployée, sa chevelure, blonde et superbe, tendait à s'élever au-dessus d'elle sans toutefois atteindre la surface. Au moindre mouvement, chaque cheveu, entouré d'une sorte de mince fourreau à queue, vibrait sous le frottement des nappes fluides, et la corde ainsi formée engendrait selon sa longueur un son plus ou moins haut. Ce phénomène expliquait la séduisante musique entendue aux approches du diamant. L'habile jeune femme la produisait à dessein, réglant savamment ses crescendo ou diminuendo par le degré variable de force et de rapidité choisi pour les oscillations de son cou. Les gammes, traits ou arpèges dans leur ascension et dégringolade mélodieuse, pouvaient s'égrener sur un champ d'au moins 3 octaves. Souvent, l'exécutante, se bornant à mollement accomplir de légers dandinements du crâne, restait confinée dans un registre fort restreint. Puis, se déhanchant pour imprimer à son buste un large et continuel mouvement de roulis, elle employait toutes les ressources de son curieux instrument, qui donnait alors son maximum d'étendue et de sonorité.
Se laissant tomber au fond, le chat introduisit solidement jusqu'aux oreilles sa face dans le cornet de métal qui appuyait sa pointe contre la paroi du récipient. Paré de la brillante annexe dont les trous livraient de tous côtés passage à ses regards, il nagea vers la tête de Danton. Cantrelle nous dit que par l'effet d'une composition chimique particulière, la boulette rouge absorbée tout à l'heure sous nos yeux avait momentanément changé le corps entier du chat en une pile vivante extrêmement forte dont le pouvoir électrique concentré dans le cornet était prêt à se manifester au moindre contact de la pointe avec une substance conductrice. Grâce à un dressage subtil, Kong Declen savait toucher délicatement le cerveau de Danton avec la partie effilée de son étrange masque. Dès lors, muscles et nerfs, déjà électrisés par leur revêtement aqueux, subissaient une vigoureuse décharge qui les faisait agir comme sous l'influence mnémonique d'anciennes routines. Arrivé au but, le chat mit légèrement le bout du cône métallique sur l'encéphale exposé devant lui et les fibres exécutèrent soudain une impressionnante gymnastique. On eût dit que la vie animait de nouveau ce résidu de faciès tout à l'heure immobile. Certains muscles semblaient faire tourner en tous sens les yeux absents, tandis que d'autres s'ébranlaient périodiquement comme pour lever, abaisser, crisper ou détendre la région sourcilière et frontale. Mais ceux des lèvres surtout remuaient avec une agilité folle, tenant sans nul doute aux prodigieuses facultés oratoires possédées jadis par Danton. Vu de profil, Kong Declen, par quelques mouvements de natation, se maintenait fixement à côté de la tête sans nous en rien cacher, interrompant parfois malgré lui le contact du cornet et de la dure mer pour le rétablir presque aussitôt. Pendant la trêve, l'agitation faciale cessait, pour reprendre dès que le courant circulait à nouveau. Et l'animal gardait tant de précautionneuse douceur dans ses attouchements que c'est à peine si la tête, en ces moments de liberté, tendait à se balancer quelque peu au bout de son fil, muni tout en haut d'une simple ventouse de caoutchouc adhérant au plafond transparent de l'immense gemme. Cantrelle, qui précédemment, au cours d'expériences analogues, avait habitué ses regards à interpréter le manège des muscles buccaux, nous révélait au fur et à mesure de leur apparition
les phrases passant sur les vestiges de lèvres du grand orateur. C'était d'incohérents fragments de discours empreints de vibrant patriotisme. Pêle-mêle, d'entraînantes périodes prononcées naguère en public, surgissaient des cases du souvenir pour se reproduire automatiquement au bas du débris de masque. Provenant également de multiples réminiscences qu'envoyaient du fond des temps révolus certaines heures marquantes de pleine activité parlementaire, l'intense trémoussement du restant de la musculature physionomique montrait combien le hideux mufle de Danton devait se rendre expressif à la tribune. Sur un mot de commandement crié par Cantrelle, le chat s'éloigna de la tête, soudain inerte, puis eut recours à son bipède antérieur pour se libérer du cornet, qui bientôt s'affala paresseusement sur le fond.
Fogard, d'un mouvement brusque, saisit la fleur violette affalée près de sa main droite. Avec une épine de la tige, il se fit une entaille longitudinale sur la face inférieure du poignet gauche, ouvrant ainsi une veine saillante et gonflée, d'où il retira, pour le déposer sur sa couche, un caillot de sang verdâtre entièrement solidifié. Puis, avec un pétale de la fleur arraché lestement et pressé entre ses doigts, il créa quelques gouttes d'un liquide efficace qui, tombant sur la veine, en ressouda subitement les deux bords écartés. Tourné vers la droite et regardant la flamme du pavillon, rayée de rouge, Fogard prit le caillot de sang qu'il leva doucement contre la hampe bleue. Soudain, un tressaillement se produisit dans l'étamine blanchâtre couverte des reflets venus d'en haut. Le triangle, jusqu'alors immobile, se mit à descendre en se cramponnant à sa tige. Au lieu d'un simple chiffon, nous avions sous les yeux quelque animal étrange, doué d'instinct et de mouvement. Les zébrures au ton rouge n'étaient autres que de puissants vaisseaux sanguins, et les deux pois noirs symétriques provenaient d'une paire d'yeux troublants et fixes. La base verticale du triangle adhérait à la hampe par de nombreuses ventouses, qu'une série de contorsions déplaçait depuis peu dans une direction constante. Fogard, élevant toujours son caillot vert, rencontra bientôt l'animal qui effectuait régulièrement sa descente. Les ventouses supérieures restèrent seules soudées, tandis que celles d'en bas, s'écartant de la hampe, saisissaient avidement le caillot abandonné par l'adolescent. Grâce à un travail de succion gloutonne, les bouches aspirantes, cédant l'une l'autre, eurent vite fait d'absorber la pâture sanguine dont elles semblaient prodigieusement friandes. Le repas terminé, elles se collèrent de nouveau sur la hampe, et l'ensemble, immobilisé, reprit son premier aspect de drapeau rigide aux couleurs inconnues.
L'ordonnateur et tout-puissant propriétaire de cet étrange jardin est resté sa vie durant et au-delà même de sa mort tout à fait mystérieux. N'incriminons pas une famille que l'éclat de noms militaires et sonores a pu rendre de nos jours encore aveugle à de plus rares lumières. Le mystère, ou plutôt un retrait essentiel, faisait sans doute partie de la nature de Roussel. Non qu'il ait rien caché, mais parce qu'il y avait dans la confidence quelque chose qui lui répugnait. Le langage pour lui n'était pas instrument de relation, une manière de passer ou de faire passer, mais plutôt une réserve infinie, comme un corridor souterrain permettant d'aller subrepticement d'un point à un autre, d'une chose à une autre, d'une banalité à un trésor, du réel à l'impossible. Le langage, c'était pour lui le lieu des naissances fantastiques et monstrueuses, un réseau minéral. Tout ce que nous savons de lui passe par son langage et sa mort. Et cette mort même est restée ambiguë. Drogué jusqu'au moelle et dans un grand état de faiblesse, Roussel avait quitté Paris pour la Sicile et là avait finalement consenti, sous l'influence de Madame Charlotte Dufresne qui ne le quittait guère, à suivre un traitement en Suisse. Le matin du jour fixé pour le départ, c'était le 14 juillet 1933, on l'a trouvé mort. Il s'était traîné jusqu'à la porte de communication qui donnait sur la chambre de sa compagne, mais cette porte, qui restait d'ordinaire toujours ouverte, Roussel, cette nuit-là, et sans doute au moment de mourir, l'avait fermée. Ce qui s'est passé au juste, on ne le sait pas. Mais seulement que cette mort, Roussel l'avait prévue et aménagée. Il avait adressé plusieurs mois auparavant à son éditeur un texte destiné à être posthume et où, pour la première fois, il parlait de lui-même et de son œuvre. Il a voulu sans doute que ce soit là la seule clé, le seuil unique par où nous puissions le rejoindre. Mais cette porte de communication, de lui à nous, elle est, comme l'autre, étrangement cadenassée. À moitié fiche, à moitié compte-rendu médical, voilà ce qu'il a à nous dire de lui-même.
Je fus élevé avec ma sœur Germaine, plus tard duchesse d'Elchingen, puis princesse de la Moscova, à partir du 21 octobre 1928, date où mourut sans laisser d'enfant le frère aîné de mon beau-frère, Napoléon Ney, prince de la Moscova, marié à son Altesse impériale, la princesse Eugénie Bonaparte, descendante directe du roi Joseph et de Lucien Bonaparte. Fait curieux, presque tous les noms de l'Empire se trouvaient réunis dans la famille de mon beau-frère. Son demi-frère était prince d'Essling et duc de Rivoli. Sa sœur aînée avait épousé son Altesse, le prince Murat, prétendant au trône de Naples. Ses autres sœurs étaient la princesse Eugène Murat, la duchesse de Camastra, la duchesse d'Albufera et la duchesse de Fezensac. De plus, mon neveu et unique héritier, Michel Ney, duc d'Elchingen et futur prince de la Moscova, épousa le 26 février 1931 mademoiselle Hélène Lacaze, petite fille par sa mère de Ferdinand de Lesseps et petite nièce de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. À son mariage, je fus témoin avec le prince Murat. Notre frère aîné Georges, mort en 1901, était déjà presque un jeune homme quand nous n'étions encore que des enfants. J'ai gardé de mon enfance un souvenir délicieux. Je puis dire que j'ai connu là plusieurs années d'un bonheur parfait. Ma mère adorait la musique, et me trouvant doué pour cet art, elle me fit quitter à 13 ans le lycée pour le conservatoire, après avoir triomphé d'une légère résistance de mon père. J'entrai dans la classe de piano de Louis Diemer et j'obtins un second, puis un premier accessit. Vers 16 ans, j'essayais de composer des mélodies dont je faisais les vers moi-même. Les vers venaient toujours facilement, mais la musique restait rebelle. Un jour, à 17 ans, je pris le parti d'abandonner la musique pour ne plus faire que les vers. Ma vocation venait de se décider. À partir de ce moment, une fièvre de travail s'empara de moi. Je travaillais, pour ainsi dire, nuit et jour, pendant de longs mois, au bout desquels j'écrivis la doublure, dont la composition a coïncidé avec la crise décrite par Pierre Janet. Quand la doublure parut, le 10 juin 1897, son insuccès me causa un choc d'une violence terrible. J'eus l'impression d'être précipité jusqu'à terre du haut d'un prodigieux sommet de gloire. La secousse alla jusqu'à provoquer chez moi une sorte de maladie de peau qui se traduisit par une rougeur de tout le corps, et ma mère me fit examiner par notre médecin, croyant que j'avais la rougeole. De ce choc résulta surtout une effroyable maladie nerveuse dont je souffris pendant bien longtemps. Je me remis au travail, mais d'une façon plus sage que lors de ma grande crise de surmenage.
Cette maladie a été enregistrée par les médecins bien avant que l'œuvre de Roussel appartienne à la littérature. Pendant plusieurs années, Pierre Janet a soigné Roussel et, sous le nom de Martial, a relaté son cas dans l'angoisse et l'extase. Observation sans profondeur, aucune. Un pauvre petit malade devait dire un jour Janet à Léris en parlant de Roussel. Mais qui révèle un Roussel insoupçonnable, un Roussel illuminé de l'intérieur, certain de son génie, comme possesseur d'un soleil éblouissant qui rend plus souveraine, plus glaçante aussi, sa réserve quotidienne.
Martial, jeune homme névropathe, timide, scrupuleux, facilement déprimé, a présenté à l'âge de 19 ans, pendant 5 ou 6 mois, un état mental qu'il juge lui-même extraordinaire. S'intéressant à la littérature qu'il préférait à des études poursuivies jusque-là, il avait entrepris d'écrire un grand ouvrage en vers et voulait le terminer avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans. Comme ce poème devait comprendre plusieurs milliers de vers, il travaillait assidûment, presque sans arrêt, le jour et la nuit, et n'éprouvait aucun sentiment de fatigue. Il se sentit envahir peu à peu par un étrange enthousiasme.
On sent à quelque chose de particulier que l'on fait un chef-d'œuvre, que l'on est un prodige. Il y a les enfants prodiges qui se sont révélés à 8 ans. Moi, je me révélais à 19 ans. J'étais l'égal de Dante et de Shakespeare. Je sentais ce que Victor Hugo vieillit a senti à 70 ans, ce que Napoléon a senti en 1811, ce que Tannhauser rêvait au Venusberg. Je sentais la gloire. Non, la gloire n'est pas une idée, une notion que l'on acquiert en constatant que votre nom voltige sur les lèvres des hommes. Non, il ne s'agit pas du sentiment de sa valeur, du sentiment que l'on mérite la gloire. Non, je n'éprouvais pas le besoin, le désir de la gloire, puisque je n'y pensais pas du tout auparavant. Cette gloire était un fait, une constatation, une sensation. J'avais la gloire. Ce que j'écrivais était entouré de rayonnement. Je fermais les rideaux, car j'avais peur de la moindre fissure qui eût laissé passer au dehors les rayons lumineux qui sortaient de ma plume. Je voulais retirer l'écran tout d'un coup et illuminer le monde. Laisser traîner ces papiers, ça leur a fait des rayons de lumière qui auraient été jusqu'en Chine, et la foule éperdue se serait abattue sur la maison. Mais j'avais beau prendre des précautions, des raies de lumière s'échappaient de moi et traversaient les murs. Je portais le soleil en moi, et je ne pouvais empêcher cette formidable fulguration de moi-même. Chaque ligne était répétée à des milliers d'exemplaires, et j'écrivais avec des milliers de becs de plumes qui flamboyaient. Sans doute, à l'apparition du volume, ce foyer éblouissant serait dévoilé davantage et aurait illuminé l'univers. Mais il n'aurait pas été créé. Je le portais déjà en moi. J'étais à ce moment dans un état de bonheur inouï. Un coup de pioche m'avait fait découvrir un filon merveilleux. J'avais gagné le gros lot le plus étourdissant. J'ai plus vécu à ce moment-là que dans toute mon existence.
En même temps, Martial se désintéressait de tout le reste et avait grand-peine à interrompre un peu son travail pour aller de temps en temps manger un peu. Il n'était pas absolument immobile. Il faisait quelques pas et écrivait un peu, mais il restait des heures, la plume à la main, immobile, absorbé dans sa rêverie et dans le sentiment de sa gloire.
Il faut s'arrêter un instant à cette lumière du dedans, à ce travail secret qui va, pendant 30 ans, occuper la vie de Roussel. Travail qui ne sera coupé que par de longs voyages au Moyen-Orient et dans le Pacifique. Encore, ces voyages réels étaient-ils profondément fictifs? Il s'était fait aménager une somptueuse voiture dont il tenait les rideaux soigneusement baissés pour que le paysage ne vienne jamais le troubler. Faisant escale en Chine, il refusa de descendre à terre pour pouvoir terminer ses interminables versifications. Il travaillait comme un fonctionnaire. Il commençait et terminait à heure fixe, passant des années entières sur un texte, près de 10 ans par exemple, pour les 60 pages à peine, des nouvelles impressions d'Afrique. Un tel acharnement et des textes aussi étranges ont pu faire croire que Roussel avait enfoui un secret. Breton et d'autres après lui ont imaginé que Roussel était un auteur initiatique et que ses œuvres, comme tous les textes alchimiques, racontaient symboliquement l'histoire du grand œuvre. À vrai dire, de secret, il n'y a pas de raison d'en chercher ailleurs que chez Roussel lui-même et dans ce qu'il nous a dit. Il était trop solitaire sans doute, trop sûr aussi de son propre soleil, pour se mettre à l'ordre d'un chiffre qui n'eût pas été le sien. Et ce secret conservé, il l'a transcrit, il nous l'a transmis dans son ouvrage posthume. C'est le fameux procédé, technique étonnamment naïve, pour faire naître le fantastique, pour capter l'imaginaire, pour aménager selon une recette simple tous les hasards du langage et de l'inspiration. Une sorte d'instrument pour susciter l'improbable, pour d'un coup de dé provoquer et abolir le hasard.
Je me suis toujours proposé d'expliquer de quelle façon j'avais écrit certains de mes livres. Impression d'Afrique, Locus Solus, L'étoile au front et La poussière de soleil. Il s'agit d'un procédé très spécial. Et ce procédé, il me semble qu'il est de mon devoir de le révéler, car j'ai l'impression que les écrivains de l'avenir pourraient peut-être l'exploiter avec fruit. Très jeune, j'écrivais déjà des contes de quelques pages en employant ce procédé. Je choisissais deux mots presque semblables, faisant penser au métagramme, par exemple « billard » et « pillard ». Puis j'y ajoutais des mots pareils, mais pris dans des sens différents. Et j'obtenais ainsi deux phrases presque identiques. En ce qui concerne « billard » et « pillard », les deux phrases que j'obtins furent celles-ci. Premièrement, les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. Deuxièmement, les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard. Dans la première, lettre était pris dans le sens de signe typographique, blanc dans le sens de cube de craie, et bande dans le sens de bordure. Dans la seconde, lettre était pris dans le sens de missive, blanc dans le sens d'homme blanc, et bande dans le sens de horde guerrière. Les deux phrases trouvées, il s'agissait d'écrire un conte pouvant commencer par la première et finir par la seconde. Or, c'était dans la résolution de ce problème que je puisais tous mes matériaux.
Mais ce n'est là qu'une première étape. Ce jeu de langage a organisé quelques textes qui étaient encore inédits au moment de la mort. Mais il a servi de point de départ à deux autres exercices qui, eux, ont organisé toutes les grandes œuvres de Roussel, les quatre œuvres majeures, Impression d'Afrique, 1910, Locus Solus, 1914, deux textes qui ont été dédoublés ensuite en pièces de théâtre qui portent le même titre, puis deux autres œuvres écrites directement pour le théâtre, L'étoile au front et Poussière de soleil. Le premier procédé consiste à prendre deux mots, comme par exemple phalange et dé, un dé à coudre placé sur l'extrémité d'un doigt, puis, en maintenant la liaison des deux mots, leur donner à chacun un sens différent. Par exemple, phalange à dé deviendra une troupe d'hommes portant sur leur dos d'énormes cubes de carton en forme de dé à jouer. C'est ainsi qu'est née la statue de l'ilote grec sur les rails en moue de veau.
Premièrement, baleine, mammifère marin, à îlot, petite île. Deuxièmement, baleine, lamelle, à ilote, esclave spartiate. Premièrement, duel, combat à deux. À accolade, deux adversaires se réconciliant après le duel et se donnant l'accolade sur le terrain. Deuxièmement, duel, temps de verbe grec. À accolade, signe typographique. Premièrement, mou, individu veule. À rail. Ici, je pensais à un collégien paresseux que ses camarades raillent pour son incapacité. Deuxièmement, mou, substance culinaire. À rail, rail de chemin de fer. Ces trois derniers accouplements de mots m'ont donné la statue de l'ilote, faite en baleine de corset, roulant sur des rails en moue de veau et portant sur son socle une inscription relative au duel d'un verbe grec.
L'autre procédé consiste à prendre une phrase toute faite, comme « j'ai du bon tabac dans ma tabatière », et d'en extraire, par jeu de mots, assonance, allitération et autres à peu près, toute une gerbe de mots étrangers les uns aux autres et qui indiquent, en leur jaillissement involontaire, la ligne du récit à écrire. De « j'ai du bon tabac » naît un long récit féerique où on voit s'incendier un ciel nocturne et asiatique.
L'image diaphane évoquait un site d'Orient. Sous un ciel pur s'étalait un splendide jardin rempli de fleurs séduisantes. Au centre d'un bassin de marbre, un jet d'eau sortant d'un tube en jade dessinait gracieusement sa courbe élancée. Sous la fenêtre, non loin du bassin de marbre, se tenait un jeune homme à chevelure bouclée. Il chantait quelque élégie de sa façon en se servant d'un porte-voix en métal mat et argenté.
On reconnaît là « j'ai du bon tabac » dans l'écho lointain d'une jade, d'une onde, d'un son mat. Jade, tube, onde, obade en mat, basse, tierce. D'une jeune fille dont le charme et la fortune attirent les jeunes gens. D'une demoiselle qui a des prétendants, d'une demoiselle à prétendants. Roussel tire un instrument de pavage incroyablement compliqué qui est capable de voler tout seul, d'aller choisir dans un tas de dents humaines arrachées puis coloriées, des petits pavés qu'il incruste en un endroit déterminé pour former une mosaïque qui représente un soudard venu du haut Moyen-Âge allemand, une demoiselle à reîtres en dents.
Comme le maître achevait sa conférence improvisée, un bruit sec, déjà connu de nous, attira notre attention vers les trois griffes supportant la demoiselle. Subissant la poussée de sa tige, actionnée par le mécanisme supplémentaire du chronomètre enchâssé dans le bas du poteau, la rondelle grise, descendant de nouveau, venait de se coller contre la bleue, sous laquelle adhérait maintenant, enlevée à l'instant par l'aimantation soudaine, la racine qui tout à l'heure avait servi de but à l'appareil. La lentille pivota comme de coutume pour créer un supplément d'hydrogène, puis tourna une seconde fois pendant que la hie s'envolait, dérobant la racine. Un souffle assez lent chassa la demoiselle vers la plume déployée sur le chapeau du reître. La soupape fonctionna juste à la seconde propice et l'appareil, en se posant, lâcha par écartement des rondelles, sa proie, mince et légère, achevant ainsi une place rose pâle qui, subtilement dégradée, formait le bord de la plume dont l'arête médiane était faite de racines écarlates. Les griffes ayant trouvé trois supports corallins de hauteur pareille, aucune des fines rallonges intérieures n'était sortie. Presque aussitôt, la lentille exécuta une nouvelle manœuvre génératrice de pouvoir ascensionnel, suivie d'un deuxième quart de tour. Invariablement, ces évolutions partielles avaient lieu dans le sens adopté pour les aiguilles de montre. La hie, continuant en droite ligne, dans l'axe de sa dernière traversée, alla tomber, grâce à la soupape, sur une merveilleuse canine, plus blanche qu'une perle, qui, au dire de Cantrelle, provenait de l'éblouissante denture d'une ravissante américaine. Au moment où s'effectua l'aimantation due au rapprochement des rondelles, un nuage rapide couvrit le disque entier du soleil, amenant différentes perturbations dans les couches d'air où circulèrent des courants nouveaux. La lentille se remit vivement dans sa position active. Le passage du voile de brume était prévu depuis l'origine par Cantrelle, qui avait réglé en conséquence les embrayages du chronomètre en jeu. La station militante du ver concentrateur se prolongea donc beaucoup plus que les deux fois précédentes, où, vu l'ardeur du soleil exempt de toute vapeur, quelques secondes avaient suffi pour faire naître une copieuse ration d'hydrogène. La manœuvre allégeante terminée, la demoiselle prit un silencieux essor et, grâce à une saute de vent soudaine, s'abattit sur la colombe du rêve, dont l'extrémité d'une aile fut complétée par la blanche lanière logée en bonne place. Cette fois, obéissant à son chronomètre, l'aiguille interne d'une des griffes s'était grandement abaissée à la fin du parcours pour appliquer sa pointe inoffensive sur le sol. Grâce à elle, l'équilibre se trouvait sauvegardé, les autres griffes s'appuyant plus haut sur deux dents de niveau pareil. L'aérostat, que la soupape venait de dégonfler, fut rempli, puis soulevé par une intervention durable de la lentille, et, pendant que l'aiguille rallonge rentrait mécaniquement dans sa griffe, l'instrument, persévérant dans la même direction, alla s'emparer au loin d'une dent bleue, fort régulière, semblable à celle qui, d'après les chroniques du Second Empire, déparait isolément le splendide appareil masticateur de la comtesse de Castiglione, constituant ainsi l'unique et sensationnelle imperfection de cette beauté sans égale. À ce moment, le nuage, glissant assez vite, cessa de voiler le soleil qui reconquit toute sa puissance. Cette réapparition marqua la fin des courants contraires qui s'étaient manifestés pendant l'éclipse passagère, et la brise reprit à peu près son ancienne orientation. La lentille n'eut pas besoin d'un long effort pour provoquer l'envol de l'errante machine qui bondit gracieusement jusqu'à la culotte du reître où l'affichoir un brusque agissement de la soupape. Ici, les griffes trouvèrent trois points d'arrivée très étagés qu'établissaient le sol et deux dents outre-mer d'épaisseur différente. Mais d'avance, sous l'influence respective de leur chronomètre, deux aiguilles avaient plongé inégalement, et maintenant la plus longue touchait terre, tandis que l'autre portait sur la dent de moindre cubage. Le nouvel acompte indigo tomba juste où il fallait, et le ballon, promptement doué d'un supplément de force, poursuivit son trajet rectiligne jusqu'à une mâchelière noire, énorme et hideuse, autour de laquelle la demoiselle campa doucement ses griffes, toutes trois depuis un instant uniformément dépourvues d'aiguilles visibles. Annonçant, d'après ses souvenirs, qu'une interminable attente serait nécessaire pour assister à la prochaine déambulation automatique, Cantrelle nous entraîna d'un pas lent vers une autre région de l'immense place.
Ainsi se déroulent sans fin ces textes étranges où le langage méticuleux et mat recèle une profondeur aquatique. Au fond de l'aquarium verbal reposent, comme autant de cailloux imperceptibles, les mots originaires dont l'éclat retenu a donné naissance au récit. À la surface, on a un langage absolument artificiel, né de la destruction du langage de tous les jours, d'une sorte d'assassinat ludique des mots où se libèrent les figures imaginaires qui s'y trouvaient secrètement encloses. Comme si l'imagination, le fantastique, l'impossible, ne résidaient pas dans un arrière-monde silencieux, dans l'arrière-monde du rêve, mais comme s'il était déjà là, nous guettant dans le repli des mots, enfermés dans leur familiarité, prêts toujours à détonner et à jaillir de leur coquille carbonisée, comme un grand feu véridique et légendaire. Il n'y a pas d'autre création possible que cette explosion du langage sur lui-même, cette cendre et cet éclair, cet envol confus et évident des mots. Roussel n'avait pas tort, peut-être, de voir là l'essence même de la poésie. En tout cas, un signe de l'absolue souveraineté du langage. Dans cette formidable architecture des mots, avec ses couloirs secrets, ses portes qui s'escamotent, ses communications imprévues, ces salles souterraines soudain illuminées dans cette étrange pyramide, l'homme n'est qu'une marionnette, une momie. Dans Locus Solus, œuvre centrale sans doute, où Roussel s'est mis en scène lui-même sous le nom de Martial Cantrelle, on apprend que l'ingénieux inventeur a trouvé un moyen, non pas exactement de faire revivre les morts, mais de les faire se mouvoir et recommencer indéfiniment telle scène de leur vie, un peu comme ces personnages qui, à chaque heure, sortent quasi immobile de l'horloge et par des gestes toujours semblables montre à la fois l'écoulement et l'identité du temps.
Cantrelle avait conçu l'espoir de donner une complète illusion de la vie en agissant sur de récents cadavres, garantis par un froid vif contre la moindre altération. S'essayant longuement sur des cadavres soumis à tant au froid voulu, le maître, après maint tâtonnement, finit par composer d'une part du vitalium, d'autre part de la résurrectine, matière rougeâtre à base d'érythrite, et qui, injectée liquide dans le crâne de tel sujet défunt, par une ouverture percée latéralement, se solidifiait d'elle-même autour du cerveau étreint de tous côtés. Il suffisait alors de mettre un point de l'enveloppe intérieure ainsi créée en contact avec du vitalium, métal brun, facile à introduire sous la forme d'une tige courte dans l'orifice d'injection, pour que les deux nouveaux corps, inactifs l'un sans l'autre, dégageassent à l'instant une électricité puissante qui, pénétrant le cerveau, triomphait de la rigidité cadavérique et douait le sujet d'une impressionnante vie factice. Par suite d'un curieux éveil de mémoire, ce dernier reproduisait aussitôt, avec une stricte exactitude, les moindres mouvements accomplis par lui durant telle minute marquante de son existence. Puis, sans temps de repos, il répétait indéfiniment la même invariable série de faits et gestes choisis une fois pour toutes. Et l'illusion de la vie était absolue. Mobilité du regard, jeu continuel des poumons, paroles, agissements divers, marche, rien n'y manquait.
Le théâtre de Roussel est lui aussi un théâtre de momies. Les histoires se déroulent comme des sonneries d'horloge, chaque segment du discours étant confié à une voix différente. Les personnages n'ont ni visage, ni caractère, ni histoire, ni projet, ni passé, ni avenir. Ils sont les voix arbitraires d'un langage qui se développe au-dessus d'eux, selon des mécanismes d'invention et d'automatisme qui leur échappent. Ça parle, ça continue de parler, ça ne cesse pas de parler, mais qui parle ? Les hommes sont pris dans un mouvement de chevaux de bois, voués à un destin qui n'est ni celui des dieux ni celui de la mort, qui est le destin et le jeu ironique du langage. Jouer au boulevard, de telles pièces évidemment firent scandale. Scandale où les surréalistes se reconnurent, mais où Roussel, les yeux ailleurs, ne pouvait pas se reconnaître ni les reconnaître.
Vos paroles depuis un instant éveillaient en moi je ne savais quel souvenir. Le sociologue Télessard, dans sa filiation des coutumes, parle des gouverneurs Véron de l'Irtisovie et dit comment ils s'élisaient.
À quel propos ?
C'est un des 1000 exemples qu'il invoque pour apparenter tous les rites de la terre passés et présents. Des pratiques dont elles ont parlé descendent, selon lui, celles qu'adopta le conclave.
De mon côté, je me rappelle avoir lu quelque chose du même genre dans les mémoires de Bertignac.
Un brillant diplomate qui eut son heure sous le Second Empire.
À ses débuts, il occupa 5 ans un poste dont la principauté slave de Pralkanie, où certaines étaient, il vit la révolution qui mit dehors son Altesse Sérénissime, Jean XIX.
Que suivirent des chefs d'État roturiers ?
Dont l'élection, justement, se signala par certains détails, rappelant celle de leur Véran.
Le nouveau pouvoir n'avait rien changé à la situation de Bertignac.
Qui était encore là quand Jean XIX fut restauré.
Après avoir passé son temps d'exil ?
En Suisse, où on lui joua un tour habile, bien digne du copieux chapitre que Bertignac lui consacre.
Un tour intéressé.
Qui amena la découverte d'un secret sans prix. Peu d'heures avant sa fuite, dont l'acuité de la crise politique rendait le succès incertain, Jean, nuitamment, avait, au fond de son parc, enfoui les joyaux de la couronne dans un primitif silo, rapidement creusé par lui-même, puis bien dissimulé.
Pour les y retrouver un jour s'il était restauré.
Ou les y faire, du fond de l'exil, reprendre en secret par un envoyé sûr.
Son remplaçant ne les trouva pas.
Malgré les recherches qu'il fit, mû par son refus d'admettre que Jean eût commis l'imprudence de s'en charger dans sa fuite hasardeuse.
En faire son deuil était dur.
Aussi envoya-t-il en Suisse un couple adroit. L'espion Serge Strisky et sa lieutenante Olga Nechev, une ex-chanteuse qui vivait à sa remorque depuis que l'âge avait endommagé son physique et sa voix.
Et tous deux devaient, une fois rendus, s'attacher au pas du prince pour tenter de lui ravir le secret de sa cachette.
Se donnant pour époux, ils descendirent dans un luxueux hôtel au parc semé de plusieurs annexes, dont la mieux située abritait le prince Jean et sa suite.
Fait propre à les guider dans le choix de leur chambre.
S'étant documentés d'avance, ils se firent loger face au prince, qu'alternativement, derrière un rideau, ils épièrent à l'aide d'une longue vue.
Avec fruit.
Le 5e jour, Serge vit Jean, installé près de sa fenêtre ouverte, prendre une feuille blanche et y tracer des mots solitaires, l'un au-dessous de l'autre, en obliquant sans cesse vers la droite.
Il flaira le cryptogramme.
Et redoubla d'attention. Bientôt, les mots, à raison d'un par ligne, formèrent sur la feuille une sorte d'épaisse et imparfaite diagonale.
Il restait à remplir la page avec des phrases leur donnant correctement asile.
Tâche longue et difficultueuse.
Que le prince n'avait pas achevé quand, l'heure du déjeuner venue, il eût fallu serrer le document dans son portefeuille.
Serge tira des plans.
Dont l'exécution devait avoir pour théâtre le bosquet de l'arbre creux, un coin de parc visible de sa fenêtre, où 4 personnes pouvaient disparaître dans le tronc évidé d'une immense chaîne séculaire.
Le prince venait là, volontiers.
À cause d'une escarpolette, suspendue à la plus grosse branche du géant.
Il aimait se balancer.
Parce que ça le portait au sommeil.
Ses nuits étaient mauvaises.
Exécrable depuis ses malheurs, qui lui avaient détraqué les nerfs.
Dame, une pareille secousse.
Or, il avait découvert qu'avec l'aide d'un journal, un bercement léger, coïncidant avec la digestion, l'assoupissait toujours.
Alors, l'heure de la sieste...
le ramenait infailliblement au bosquet de l'arbre creux.
Serge avait noté le fait.
Et se promit d'en tirer parti. Après s'être concerté avec Olga, il alla se dissimuler dans l'arbre creux. Dès que le prince parut, l'ex-chanteuse, accoudée à sa fenêtre, commença de fredonner, en vue d'un signal, un de ses airs de jadis.
Quelle hâte !
Effectuée tardivement, l'attaque de la première note n'eût-elle pas risqué d'interrompre l'assoupissement escompté ?
Le prince prit place dans l'escarpolette...
et doucement se balança en lisant un journal.
Les résultats furent bons ?
Et relativement rapides. Quand, de son poste, Olga le vit affaissé, dos rond et tête ballante, elle fit exprès, dans ses paroles chantées, un remarquable pataquès.
C'était le signal convenu avec Serge.
Qui dès lors se risqua, allongeant le bras, sans sortir de l'arbre. Il put, le balancement touchant à sa fin, prendre au dormeur son portefeuille, d'où il tira le document.
Facile à déchiffrer pour lui qui en avait la clé.
Les mots primitifs tracés en biais concernaient bien les joyaux disparus.
Et indiquaient leur cachette.
Très clairement. Satisfait, Serge remit adroitement documents et portefeuille dans leur poche d'origine et se renfonça dans l'arbre, tandis qu'Olga cessait de chanter, ce qui provoqua chez le prince, inconsciemment accoutumé à sa voix, un véritable demi-réveil. d'ailleurs suivi d'un nouveau somme, après lequel il partit un peu réconforté.
Serge se hâta de s'évader
et de télégraphier à son maître qui déterra vite les joyaux.
Quant aux documents...
En achevant son travail de remplissage, le prince lui donna l'aspect d'une lettre ordinaire et l'envoya en pralcanie à l'un de ses fidèles.
Initié au secret de la ruse cryptographique.
Oh, c'était pas la première fois que Jean XIX l'employait avec lui.
Mais il fut averti trop tard.
À peine engagé dans l'élaboration d'un projet tendant à l'enlèvement des joyaux, suivi de leur renvoi au prince, il apprit de bonne source qu'on l'avait devancé.
Jean XIX les recouvra du moins le jour de sa restauration.
C'est-à-dire 3 ans après sa fuite.
Son exil fut moins long que celui de vos Bourbons.
Oh, dame, la distance est grande entre notre 93 et la révolution pralcanienne.
Au début de sa vie, Roussel avait écrit d'autres œuvres, encore moins connues s'il se peut, à qui, en tout cas, avait manqué l'éclat du scandale. Peut-être leur force d'évidence coupait tout accès vers elle, même par le chemin détourné de la violence et de la dérision. Œuvres sans jeu de mots, sans procédé, sans règles de construction, œuvres qui se donnent tout simplement pour tâche d'être en alexandrin et de décrire à l'infini des choses. Le poème qu'il publia en 1897, La doublure, il avait à ce moment-là 20 ans, et dont l'insuccès le marqua si fort, c'est tout simplement une description en vers de la soirée d'un acteur, d'un mauvais acteur, d'une doublure. Puis la description d'un après-midi au carnaval de Nice avec tous ses masques, autre doublure. Quelques années plus tard, Roussel écrivit des textes encore plus immédiatement descriptif. La vue d'une plage, par exemple, en plus de 2000 alexandrins. Non pas une plage réelle, c'était beaucoup trop, mais une plage, telle qu'on peut la voir à l'intérieur de ses lentilles, qui sont enchâssées dans les porte-plumes que vendent dans les lieux fréquentés par les touristes, les bazars ou les marchands ambulants. Il décrivit encore l'étiquette d'une bouteille d'eau d'Évian, ou encore, en 950 vers environ, l'entête illustrée d'un de ces papiers à lettres qu'on peut trouver parfois dans les sous-mains de faux cuir qui recouvrent des petites tables dans le salon des hôtels dans les villes d'eau.
À gauche du dessin, on voit tout le devant de l'hôtel qui dépasse, énorme, haut, immense. On ne sait à quel point la façade commence. L'hôtel trône sur la terre, il éclipse tout. Il semble qu'on ne doit jamais en voir le bout, tant il est colossal, monstrueusement vaste. Alentour, rien n'est là pour lui faire contraste. Il s'isole dans sa puissante majesté, sans concurrence pour son rang incontesté, pour sa prédominance. En bas, devant la porte, un omnibus arrive à l'instant. Il apporte directement de la gare un important flot de voyageurs. Sur son large toit plat, en haut, sont ficelés de gros bagages, plusieurs malles différentes par leur contenance, inégales, avec des cadenas partout, des sacs de nuit, des caisses, des paniers et tout ce qui s'ensuit, le tout bien empilé. Déjà, plusieurs personnes sortent de l'omnibus. Des garçons et des bonnes sont accourus avec hâte vers le trottoir au-devant des nouveaux venus à recevoir. Le portier, en livrée et tenant sa casquette à la main, vient sourire à tout le monde. Il guette le regard de chacun, afin de prodiguer ses saluts souples sans jamais s'en fatiguer. Sa livrée est rigide, irréprochable et belle. Il prend son métier au sérieux. Il excelle dans l'art de contenter tout le monde à la fois, répondant avec la même obligeante voix dans les langues les plus diverses de la terre, qui pour lui n'ont aucun secret, aucun mystère, aucun détour, car il les parle couramment et sans difficulté, sinon élégamment, avec les étrangers des quatre coins du globe. Il s'incline devant une personne en robe à carreaux, ayant un voile épais, et qui vient de quitter l'omnibus la première. Elle tient un sac léger pour les choses très précieuses qu'on craint de perdre. Ses manières gracieuses sentent la bienveillance indulgente à l'endroit des inférieurs qu'elle approche et qu'elle voit. Elle a de la bonté, de la condescendance, et ne veut pas tenir les humbles à distance. Elle conserve son sourire protecteur, sans abdiquer pourtant un reste de hauteur. Elle tient à toujours paraître noble et fière, sans qu'on la trouve trop hautaine, trop altière. Elle permet aux gens un soupçon limité de hardiesse dans la familiarité. Elle se trouve très bonne quand elle daigne jeter un regard sur la plèbe. Une duègne la suit, malmise, vieille, osseuse, ayant l'aspect de la compagne qui sert de porte-respect. C'est une femme sans ressources, une parente pauvre, peut-être assez proche, cousine ou tante, qu'on nourrit par raison de famille. Elle vit de générosité, mais rien ne lui suffit. Elle voudrait pouvoir se plaindre. Elle est aigrie par sa condition. Elle est presque maigrie par une rage qui la consume au-dedans. Elle relate tous les jours mille incidents dont la suite partout renaissante stimule son mécontentement jaloux. Elle accumule les désirs de révolte et les petits griefs. À table, on ne lui sert jamais que les reliefs des autres, tant mieux s'il en reste. Elle est vêtue de vieilles robes hors d'usage, on l'habitue à ne pas se permettre un avis personnel, à n'être qu'un écho complaisant, éternel, de la pensée à peine exprimée et du dire de chacun. Ce qu'on aime, il faut qu'elle l'admire, il faut qu'elle haïsse aussi tout ce qu'on est, elle ne compte pas. D'ailleurs, elle se tait, le plus souvent passive et sans rôle, muette. Sa position dans le monde n'est pas nette. On doit la traiter en égale, soi-disant, mais sans cesse un regard froid, presque méprisant, lui rappelle sa place effacée et servile. On entend qu'elle soit souple et qu'elle annihile tout vestige gênant de personnalité sous l'empire de la plate nécessité. Elle porte à deux mains une vieille valise.
Sous la surface calme de ces mots précis, sans relief, si platement proche de ce qu'ils disent, on soupçonne bien le grand souci de Roussel, cette prodigieuse inquiétude devant le pouvoir doublant et dédoublant du langage. Le langage qui répète les choses, peut-il, est-il capable de les recouvrir entièrement, sans accroc et sans résidu? Peut-il même les rejoindre dans leurs reproductions les plus schématiques, les plus anonymes, les plus dérisoires, dans une vignette, un masque, une étiquette? Et peut-être le langage n'est-il lui-même que ce double des choses qui les fait décoller d'elles-mêmes, qui en transmet simplement la répétition de papier, qui glisse dans leur être simple la mince couche de nuit qui sépare de l'invisible visage le masque colorié. À la lumière de ces textes évidents, on comprend mieux ce que voulait dire le procédé et toutes les techniques autour du procédé, par lesquels Roussel cherchait à capter la source de l'imaginaire. C'est que le langage, qui double les choses en les dédoublant, est marqué en son cœur du même signe. Il y a moins de mots que de choses. Un même mot pourra donc vouloir dire deux choses, et répété deux fois, il pourra désigner tantôt ceci et tantôt cela. Et de même qu'une chose décolle quand on l'énonce, le langage décolle de lui-même quand on le répète. Le rapport qu'il y avait entre les descriptions infinies de la vue et le contenu à peine perceptible de la petite lentille, le rapport qu'il y avait entre l'inépuisable description des masques dans la doublure et les visages invisibles qui se trahissaient entre les ouvertures noires des lèvres et des yeux, ce même rapport, on le retrouve dans Locus Solus ou les Impressions d'Afrique, dans toutes les œuvres à procéder. On le retrouve entre les descriptions méticuleuses de l'impossible et les petites phrases banales qui se cachent dessous, identiques, détruites et chargées d'un sens dédoublé. Cet obsédé que fut médicalement Roussel, cet obsédé du langage, de l'identité et du double, a construit un prodigieux labyrinthe de glace où les choses sont prises, reflétées, répétées, esquivées, dédoublées, cachées et montrées par les mots qui sont leur miroir. Et dans ce jeu le plus simple, mais doué d'un extraordinaire pouvoir de vertige, la perception méticuleuse du réel et le vagabondage astral de l'imaginaire sont l'un et l'autre indissociablement captifs. Il n'y a pas de différence entre l'invention d'une statue en baleine de corset glissant sur des rails en moue de veau et la description d'une bouteille d'eau d'Évian. Par le jeu de l'identique et de la répétition, du même et du double, le langage est capable de tout cela à la fois. De la simple coquille du mot peut jaillir une déflagration qui, en un seul éclair, nous donne la couleur réelle et modeste des choses et la grande lumière du rêve. C'est à cette déflagration en son point d'origine, en son aurore pure, que Roussel, de sa voix insistante, nous a conviés. Il ne fut pas écouté. Son dernier livre pourtant, écrit en 1928, après toutes les œuvres descriptives et après toutes les œuvres à procéder, disait bien ce que toutes elles voulaient dire. C'est une sorte de dictionnaire en quatre champs et en vers, bien sûr, où le langage apparaît dans son pouvoir de superposer les choses ou de les faire éclater, de les couper d'un geste meurtrier ou de les rapprocher dans un ciel impossible.
Tel l'ombre vers midi sur le cadran solaire, montrant que l'estomac réclame son salaire.
Par le gel, le gnaton, le maître étalon.
Défiant la crotte, un retroussé pantalon.
Un journal sur la planche à trous d'un édicule.
La botte à retaper dont le talon s'écule.
Ce qu'attentif décoiffe à coups d'ongle un rabbin.
Lorsqu'il met le couvert, la pile d'un larbin.
Mu par un barbier, un dossier de fauteuil tiède.
Le maître au réveil qu'un soldat ancien possède.
Juliette au gala des jures et Roméo par deux mimes enfants fait gratis prodéo.
Le fer vaincu qu'enseigne un preux rond sur sa cuisse.
Le pain qu'en salivant guide à la messe un Suisse.
L'asperge au rancard mise après le coup de dent.
Quand serre la bêche un verre à mortel accident.
La canne à dard demi-nue quand fausse est l'alerte.
Le trop haut pupitre à musique fraîche ouverte.
Quand pousse un pianiste enfant son siège à vis.
L'âgé calendrier bloc corpulent jadis.
La suspension qu'on remise après la soupe.
La bande de papier postal lorsqu'on se coupe.
La tache attristant la glace où la laine a pris.
Au premier éclair qui compte, la voile rit.
La table après un grand dîner réarrondie.
L'arche où monte, agressive, une eau qu'on étudie.
Au puant souffle à but du fumeur, l'amadou.
La queue à bout neuf, en sang du jeune toutou.
Quand le dressage agit, l'oisif bout de gourmette.
Quand sa tête arrive à choir, l'éteinte allumette.
L'ouvert tube à demi plat, quand roule un rapin.
Quand mûre son bouton part, l'élastique à pépin.
Quand le lit prend sa place au berceau, la ruelle.
Le pissenlit exprès, la laine atteint, cruelle.
Ses pointes faites, la ballerine à clinquant.
L'acte interprété par maître X d'un délinquant.
Quand l'arroseur cède à la soif, le jet de lance.
Le fil qui par la ragne escaladée balance.
Au bord d'un tapis vert, un honnête magot.
Un cigare réduit à l'état de mégot.
Le disque du soleil dans le ciel de Neptune. Quand, médiant, le coupe un trait pour la bavette d'un prêtre, un tableau noir. L'ampli tube à cuvette d'un chaud thermomètre a bientôt pété réduit pour une épingle à chefron. La laisse que suit tiède un collier veuf du chien qui de près lui touche pour un fil d'ombrelle à cercle. Une spire à douche à système accompli pour un naïf ressort à boudin. L'éteignoir fidèle au cierge mort, pour ce qui taille un blanc crayon noir d'ingénu à carnet de balle. La boule aquatique et nue d'un dentaire effrayant recoin pour l'abreuvoir d'un serin sobre. Pour l'arrière, à son devoir soustrait qu'un flot soulève, un moulin mal à l'aise, quand brutal favorise un ouragan. L'anglaise clé, de l'écrou garde en mémoire pour un quart de soupir. Pour un œuf au plat seul à l'écart, salé ferme à son centre, un baissé crâne arite d'âgé prêtre à jaunisse. Et pour la marguerite, sans tige où rien n'accuse un revers à tronçon, l'œuf au plat. Pour trois très chics, rayant sans façon d'un glacé gant du soir la blancheur magnifique, trois touches noires sœurs. Un pied photographique qu'empare le rayon vert pour un jeté restant de cerise triple. En passant, pour l'attristant jet d'eau qu'un coup d'atrou lorsqu'on arrose engendre, celui d'un parc. Pour un hamac à se détendre, au cirque, un bisecteur filet de sûreté. La flèche ignare, à bail sublunaire, écourtée, qu'on sort d'un cœur pour une instruite plume d'oie à rouge encre. Un marin projecteur qui s'octroie des droits de balayement systématique pour un porté falot sourd. Le jet de l'est qu'au jour met l'aérostier qui part pour l'interne chute d'un sablier. Pour un rouleau clos qui débute comme ex-bobine à neuf rubans, un poussiéreux tambour après l'étape. Un divorcé gancreux de cardinal pour la massive main de Marc en corail d'où naît du bonheur. Dans une barque, pour deux spatules à l'usage d'un potard, la paire d'avirons. Le nœud, dont tôt ou tard, d'une fille d'Alsace, à ravir le chef s'orne pour un nœud lavalière à coups. Pour une borne près d'un banc, un menhir d'un dolmen peu distant.
Le langage à lui tout seul, et dans ce qu'il a de plus simple, apparaît chargé de cette fonction souveraine, nocturne, d'accouplement et de destruction, d'incantation du hasard, du rire muet, que les surréalistes prêtaient aux puissances, mal nommées sans doute, de l'inconscient. Mais ce langage tout de noir vêtu n'est pas autre chose que celui clair qui fait naître les choses, leur lumière et la grande plage illuminée sous le regard.
Rue Alibert, au fond de la chambre, la porte, dont la patère en cuivre a deux branches, supporte le manteau de Gaspard, est fermé au loquet. Faisant se hérisser des ombres au parquet, sur le bord d'une table, une seule bougie donne un tremblotement à sa flamme élargie d'en haut. Du papier bleu plissé dans le flambeau, la cale. Plein de clairs reflets, un lavabo est adossé devant la porte condamnée de la chambre voisine. Ornant la cheminée, une pendule dont on voit le balancier est arrêtée. Un homme est en train de scier un tronc d'arbre dessus. Le sujet est en bronze, doré. Fixe les deux aiguilles au chiffre 11. L'une sur l'autre font très peu d'angle. Un seul trou à droite du cadran, à ses embas, par où l'on introduit la clé pour remonter, est sombre. Le bout de fer carré, seul, luit un peu dans l'ombre. Au milieu, le nom d'un horloger ne se lit que de tout près. Très fin. Prenant un coin, un lit sans rideau, dont aucune étoffe ne recouvre les barreaux et les pieds de fer peints en rouge. Ouvre diagonalement ses draps déjà tout prêts. En mince étoffe à fleurs, se rejoignant de près, les rideaux mal fermés là-bas de la fenêtre laissent un intervalle étroit par où pénètre, mettant sur les carreaux un filet de clarté qui va s'élargissant en bas plus écarté la lumière de la bougie. Elle s'apaise à présent. Près de la table, sur une chaise, le visage plus calme et gai qu'à son départ, tenant sur ses genoux sa Roberte, Gaspard sourit. Mince dans sa robe en dentelle noire, qu'égaye la ceinture et le col haut, en moire rouge, elle est ravissante. Et ses cheveux d'un blond clair, ondulés partout d'une grande vague, ont par endroits les reflets cuivres de la teinture. Une épingle, à la tête en perles, à sa ceinture, miroite. Le profil régulier de ses traits est fin. Sous les sourcils longs, ses yeux noirs sont très expressifs et changeants, parfois plus ou moins sombres. À la flamme tremblant de nouveau, leurs deux ombres frémissent sur le mur en atteignant le bord du plafond.
C'était Photogramme. Aujourd'hui, Raymond Roussel par Michel Foucault, avec l'auteur et le concours de Jean Marchat, sociétaire de la Comédie-Française, Nadine Allary, Michel Bouquet, Renaud Marie, Roger Blin, Rachel Salic, Pierre Leproux, René Farabet, Claude Martin, Simone Vanier, Dominique Jaïr. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Montage, Joseph Rémiot. Assistante, Ève Augustin-Henrault. Réalisation, Pierre Barbier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 21 novembre 1962. Dans un volume de la collection Bouquins chez Robert Laffont, rappelons que l'on peut trouver La Doublure, La Vue, Impression d'Afrique, Locus Solus, etc. Édition établie et présentée par Patrick Beignet et Jean-Paul Goujon.